cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 16 novembre, l'an 2000, à Saint-Jodard.
Petite question.
Dites très bien, décrire
ce que vous avez dans votre cœur. Vous avez exposé avec clarté, très bien, comment le point de départ de toute philosophie et le jugement d'existence, ceci est. Mais étant donné que la philosophie a pour but de connaître ce qu'est l'homme dans sa totalité et au-delà de lui, Dieu, ne pensez-vous pas que le cogito Descartes « je suis » est intéressant?
Je suis tout à fait d'accord que c'est intéressant, puisque Descartes l'a dit.
Car dans le « je suis », je peux mettre le « je » de côté. Ah, ça c'est beau. Car dans le « je suis », je peux mettre le « je » de côté et m'intéresser à l'être. Alors c'est plus « je suis ». Si vous mettez le « je » entre parenthèses, et l'être. Vous cherchez à quel moment vous atteignez l'être. Moi, quand je me regarde, je ne regarde pas l'être. Il est trop enfoui dans mon je, dans mon moi, dans ma conscience. L'avantage de l'autre, c'est que je vois qu'il existe. Première chose, vous voyez, le jeu est trop proche de moi, il m'encombre. Nous avons tellement de peine à dépasser le jeu, notre moi. Et c'est vrai, Descartes, c'est intéressant, je vous l'ai montré hier que avant lui, il y avait Occam. Et c'est vrai que la philosophie européenne est terriblement dépendante de la théologie. C'est ça qui est très curieux. Vous savez, c'est pas agréable d'avoir des grands-pères théologiens pour des gens qui ne reconnaissent plus Dieu. Pour ceux qui ont la foi, c'est pas gênant d'avoir un grand-père théologien. D'avoir Thomas d'Aquin, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, moi, ça me fait plutôt du bien au cœur d'avoir comme grand-père saint Thomas. Mais pour celui qui est athée, c'est embêtant. Alors quand on est dans un climat de païens, un climat d'athéisme, on n'a pas encore... Ça met du temps. À dépasser ça. Alors, ça met très longtemps à dépasser le jeu. Et au fond, le noviciat, c'est pas fait pour ça, hein. C'est fait pour trouver Dieu. Mais en second lieu, pour mieux trouver Dieu, il faut se dépasser. Vous ne pouvez pas trouver Dieu dans votre conscience morale, dans votre conscience. Il fait beau ce matin. Oui. Ah, la lumière. Ah, ça peut faire découvrir Dieu, c'est vrai. La lumière vous épanouit. On ouvre la fenêtre hein, quand il renferme. Et c'est la même chose intérieurement. Il y a un petit quelque chose comme ça. Alors, s'ouvrir à l'autre, ceci est. Oui, l'autre. C'est l'être que je connais en premier lieu, avant de connaître qu'il est telle chose. Il est. Et c'est merveilleux quand on voit que Jésus a guéri l'aveugle. Il commence par voir quelque chose. Il y a quelque chose, ceci est. Puis petit à petit, progressivement, ce quelque chose se précise. Et c'est comme ça notre vie. c'est très étonnant. Mais, tandis que dans le je suis, c'est moi. Dans mon je suis, vous ne mettez pas le je entre parenthèses. Vous mettez le je entre parenthèses si vous avez déjà découvert ceci. Alors, c'est très bien ce petit mot, parce que ça montre qu'il avait découvert ceci est avant je suis. Je ne peux pas mettre le je entre parenthèses sans avoir découvert autre. Autrement, il n'y aurait plus rien. Quand vous vous regardez, ce n'est pas l'être que vous voyez en premier lieu. Normalement, la première chose que vous trouvez, je suis intelligent. Je ne suis pas bête, hein. Je peux dire je suis. Le jeu, il est très tenace, le jeu. Sous multiples formes, hein, des formes très élégantes, très intelligentes, merveilleuses. Mais le jeu est tout le temps là. C'est le grand défaut, au fond, de moderne. Et c'est à cause de ça qu'on quitte la foi. Parce que dans la foi, c'est pas le jeu qui est premier. C'est Dieu. Tout de suite. Vous ne dites pas le credo. Credo, je crois en moi-même. Non. Et croire en moi. En croyant en vous-même, vous croyez en Dieu. Non. Je crois en Dieu, le Père. Créateur du ciel et de la terre, l'autre. Ça, je ne commence pas ma philosophie par le credo, mais je veux montrer que ce début de la philosophie est naturel. Voilà. Il n'est pas conventionnel, il est naturel. Et la très grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, nous avons des siècles, plusieurs siècles, depuis le 14e siècle. Il n'y a pas eu de successeur de Thomas d'Aquin. Il y a tout de suite eu cette espèce d'éclatement dans tous les sens. Ça arrive souvent, ça. Quand l'homme atteint un sommet dans un sens, c'est trop difficile de maintenir ce sommet. Alors, on se rejette sur les choses secondes. C'est très souvent. Car dans le « je suis », je peux mettre le « je » de côté et m'intéresser à l'être. Et à travers ceci, je connaîtrai plus parfaitement la personne humaine, le prosopone. Oui. C'est beaucoup plus difficile de mettre entre parenthèses le « je » que mettre entre parenthèses l'être. C'est ce qui arrive actuellement pour la féminologie. On met entre parenthèses l'être. Mais on ne met pas du tout entre parenthèses le jeu. On le manifeste au contraire. Oui. Alors, je ne crois pas que la théologie doit commencer par le jeu pour le mettre devant ou pour le mettre entre parenthèses. Parce que pour mettre entre parenthèses le jeu, il faut avoir saisi l'être des gens comme me dépassant. Je ne peux mettre entre parenthèses que quand j'ai saisi quelque chose plus que ce que je mets entre parenthèses. Je mets entre parenthèses toujours le second. Oui. Une philosophie qui commence par la parole et qui s'arrête à la parole peut mettre entre parenthèses l'être parce qu'il est toujours second dans la parole. Ceci est je suis. Le verbe est toujours second. Et tout verbe contient le verbe être. Je marche. Je suis marchant. Je suis travaillant. Je travaille. Et
et entre parenthèses, le verbe, il est second. Et la mise entre parenthèses, c'est pour faire passer devant l'autre. Et il passe plus facilement devant quand j'annule, mais mettre entre parenthèses, c'est annuler. C'est ce que Sartre fait, il annule. Alors, c'est moins élégant que la mise entre parenthèses. La mise entre parenthèses, c'est très élégant. Mais dans la vie commune, quand on a un frère, une sœur insupportable, ça existe, ça, dans la vie. Et bien, toujours, la Providence fait bien les choses. Alors, il y aura toujours, là, je vais le mettre entre parenthèses. Je vais faire comme s'il n'existait pas. Et alors, comme ça, c'est le paradis. Il y a le paradis entre parenthèses. Tout ce qui n'est pas... Mais c'est parce qu'on commence par soi. Si je commençais par l'être, je ne le mettrais pas en parenthèse. Pourquoi le mettre entre parenthèses? Il n'y a aucune raison. C'est pas parce que vous le trouvez moche qu'il faut le mettre entre parenthèses. Il est comme vous. Il existe. Quand vous mettez entre parenthèses quelqu'un, vous mettez devant. Et c'est vous, au fond. C'est vous qui ne supportez pas. Vous voyez, c'est très bien. C'est bien d'avoir mis ça. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un tournant dans la philosophie. La première partie de notre philosophie européenne qui a accepté le « je suis ». Il y a qui a accepté, je veux dire, « ceci est » en premier. Et puis, est né, il faudrait bien étudier Occam, parce que j'ai sûrement, on le met maintenant très en valeur, alors qu'on n'en parlait pas beaucoup avant, quand j'ai commencé mes études, bon, on ne parlait pas beaucoup d'Occam. Puis on a mis entre parenthèses Occam. J'ai suivi un cours aux études sur Occam, c'était très intéressant, c'était Vigneault, et on commençait à découvrir Occam. On avait cherché le point de départ de ce... cette philosophie qui mettait non pas la personne, le moi, c'est pas la même chose, le moi, le je pense, je suis, j'aime, c'est moi, et oui, le moi avant tout, et on juge les autres en fonction de soi. Relativement à soi. Alors, il y a forcément deux catégories de personnes, les personnes qui me sont sympathiques, les personnes qui me sont moins sympathiques, pour ne pas dire autre chose. Vous voyez, je divise. La division n'est plus être en acte et être en puissance, mais être sympathique et antipathique. C'est moi qui me jure. Le moi, c'est très vrai qu'il est très encombrant, parce qu'il est toujours là. Il n'y a pas besoin de le chercher, hein. Il est toujours là. Et il y a un effort philosophique, c'est vraiment un effort philosophique, qui consiste à dire que, eh oui, la première affirmation... c'est de constater tout ce qui existe en même temps que moi et peut-être même avant moi. Je suis né dans un monde qui existait déjà, tandis que moi, ça n'existait pas avant. Moi, comment j'avais-moi ? Je suis né dans un monde qui existait déjà. Donc, si je suis vrai, Mais je constate ça en premier lieu. Oui, il y a de multiples façons de regarder comment ceci est antérieur à « je suis ». Que « je suis » soit très intéressant, je suis tout à fait d'accord. Mais il est très intéressant en second. Quand j'ai affirmé ceci et que je l'ai bien affirmé, je peux dire que je suis à l'intérieur de ceci. Pour mon voisin, je suis ceci. Et je vois que c'est très agréable quand même que mon voisin me regarde comme une réalité autre que lui. Si mon voisin me regardait uniquement à travers son « je suis », je ne sais pas ce que je ferais. J'ai la petite souris en face du chat. On n'existerait pas. C'est une manière de regarder que ceci est antérieur. C'est énorme, ça. Ça redresse tout. C'est pour ça que c'est le point de départ de la philosophie. Ça redresse tout. Et ça, c'est quelque chose que je saisis en moi comme étant antérieur au point de vue intelligibilité à « je suis ». Et que mon moi se précise dans cette objectivité, dans le ceci est. Pour mon voisin, je suis ceci est. Et pour moi, je suis aussi ceci est. Au point de vue de l'être, je respecte que mon voisin existe. Et qu'il existe avec autant de droits que moi. Tandis que si vous commencez par « je suis », il n'existe pas avec autant de droits que moi. Tous les droits sont du côté « je suis ». Donc, vous voyez, prenez ça, et il faut réfléchir là-dessus. Il faut que ce soit pour nous une conviction personnelle. On a découvert ça. C'est la découverte de l'acte comme premier dans l'ordre de l'être implique cette découverte première, ceci est. C'est la première, je ne dis pas application, parce que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus qu'une application, c'est la découverte de ceci est, la découverte du ceci est, et c'est la découverte de l'acte dans ce qu'il a de tout à fait premier. En disant ceci est, vous découvrez l'acte. L'acte de l'être. Il est. Et c'est pour ça qu'il me transcende. En disant ceci est, il me transcende. Et vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Pour prouver l'existence de Dieu, indépendamment de tout, pour prouver l'existence de Dieu, il faut accepter un être qui me transcende. Il faut accepter vraiment un être qui me transcende radicalement. Parce qu'il est source. Il est source de tout. De tout ce qui est. Cette transcendance invraisemblable, elle est totale. Et c'est ça la découverte de l'acte. Il faut découvrir le premier moment de ma transcendance. Et le premier moment de quelque chose qui me dépasse, que je respecte, que je considère en lui-même, c'est ceci. Et ça revient tout le temps. Nous reverrons à tous les moments de la philosophie. Et parce qu'il est à tous les moments de la philosophie que d'une certaine manière, il est ultime, parce que quand j'aurai découvert l'existence de Dieu,
je dirais, Dieu peut dire « je suis ». Au fond, il n'y a que Dieu qui peut dire « je suis » en se découvrant. Il découvre l'être. Il ne peut pas le mieux découvrir qu'en lui. Tandis que je ne peux pas découvrir l'être, je ne peux pas découvrir l'être de la façon la plus parfaite en moi. Il faut que je le découvre en lui-même. Si je le découvre en premier lieu en moi, le moi est tellement proche de moi que je ne peux pas en décoller. Et j'identifie le moi et l'être. Or, identifier le moi et l'être, c'est terrible. C'est l'orgueil satanique. Pourquoi Satan est-il toujours irrité quand il est en face de Dieu? Parce que Dieu n'est pas lui. Il n'est pas Dieu. Il doit être un transcendant. Il l'accepte dans son intelligence. Il ne l'accepte pas dans son amour. Il y a cette dichotomie terrible entre eux. Amour et être. Parce qu'il s'identifie à l'être. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui, dans notre vie intellectuelle, est capital. Oui. J'insiste parce que je m'aperçois de plus en plus que c'est là l'erreur première. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de saisir à quel moment il y a déviation. Il y a une déviation qui est très radicale, parce que c'est dans le moi et l'être, entre le ceci et l'être. Mais cela ne dis pas du tout que c'est pas intéressant le je suis. Ça m'intéresse, c'est la question de l'ordre. Est-ce que c'est premier ou est-ce que c'est second? Si c'est second, très bien. Et si c'est premier, ça prend tout. Et le moi dépasse l'être. Fait que l'être est relatif à moi. Donc tout est relatif à moi. Et là, donc, chose très importante. Vous voyez, une pensée dialectique va essayer de regarder le moi et l'être. Voilà la première opposition, si vous voulez, qui s'introduit en philosophie, c'est celle-là. La première, du côté des Grecs, c'était l'être et le devenir. Le devenir était rival de l'être. Et le devenir, pour certaines philosophies, passait avant l'être. Et ça existe toujours, ça. La dualité. Quand vous mettez l'histoire avant la métaphysique, et que vous dites, pas de métaphysique sans histoire, sans l'histoire. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le devenir avant l'être. L'histoire est très intéressante si on comprend ce qu'est l'être. Et l'être m'est donné sans histoire. Il m'est donné directement. Il est. C'est aussi. On pourrait très facilement montrer là, parce qu'aujourd'hui, on a voulu faire de l'histoire une sagesse, donc la mettre première, la mettre avant tout. Alors, elle n'est pas première. Il faudrait regarder, quand on met l'histoire avant tout, au fond, on met le moi avant l'être. C'est très curieux.
fondamentalement, il y a cette première erreur. Alors, en philosophie grecque, c'est la rivalité du devenir par rapport à l'être. Cette rivalité a été dépassée par Platon, par Aristote. Mais elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. La seconde opposition, c'est le moi et ceci. Le moi et l'être. Moi, je suis dans le temps. L'être n'est pas dans le temps. Il est... Je ne dis pas qu'il est dans l'éternité, mais je dis qu'il n'est pas dans le temps. Tandis que le moi est dans le temps. Puisque vous avez une carte d'identité, vous êtes sûr comme ça d'être né tel jour. Et donc d'être dans le temps. Si vous avez perdu votre carte d'identité, vous ne savez plus quel jour. Vous êtes né, c'est embêtant. Tandis que là, vous vous inscrivez dans le temps. Première réalisation de l'acte, ceci est. Et ça, il faut... C'est très bien, que vous sortiez toutes vos objections, hein. S'il y en a, c'est pas la peine d'en sortir s'il n'y en a pas, mais s'il y en a, il faut les sortir. Seconde réalisation. Puisque pour comprendre l'acte, je dois regarder toutes les parties de la philosophie. Je cherche l'acte du côté de l'être. Et je dis, ceci est, donc c'est laisser. L'existence. Alors, je ne veux pas ergoter sur la question être en acte et exister. Parce que les puristes n'aiment pas dire exister. Parce qu'on dit ex, exister, sortir de la cause. Donc, c'est pas premier. On parle de la causalité efficiente. Le langage est très lié à l'efficacité. Alors on dit exister, être en dehors des causes, en dehors de la cause. Et c'est vrai. Alors exister ne serait pas la même chose que être. Mais dans le langage courant, ceci existe. Ceci est. Est-ce que pour vous... Ça fait une grosse différence en dire ceci est dans chacune de vos langues. Ceci est et ceci existe. Couramment, l'être en acte existait. Mais les puristes s'attaquent à ça. Je veux bien employer le mot exister et dire être en acte. Et c'est intéressant quand on passe au latin de saint Thomas, c'est esse. Ce n'est pas ens, c'est ceci est, et esse, être. Être en acte. Saint Thomas dit que l'essence, c'est ce qui est capable d'exister, ce qui est capable de passer à l'être en acte, exister, être. Regardons maintenant l'acte dans toute la philosophie du devenir. Dans toute la philosophie du vivant, je veux dire. C'est important. Qu'est-ce que c'est que l'acte dans le vivant, dans l'homme dans sa vie? Je ne regarde plus l'acte au point de vue de l'être, je le regarde au point de vue de la vie. C'est important. Parce que pour moi, être et vie, ce n'est pas la même chose. Là aussi, c'est intéressant de voir la confusion, de dire être et vie serait la même chose. Donc pour bien distinguer être et vie, je regarde l'acte au point de vue de l'être. Ceci est, c'est l'exister, l'essai. Et je regarde maintenant l'acte du côté du vivant, et du vivant spirituel, parce que c'est là où je vois le vivant le plus parfait. Et dans le vivant spirituel, c'est l'intelligence qui passe avant l'amour. Puisque pour aimer spirituellement, il faut la purification de l'intelligence. Autrement, l'amour est passion et instinct. Quel est l'acte dans ma vie intellectuelle ? Dans ma vie d'intelligence ? C'est la contemplation. Ce qui est ultime dans ma vie intellectuelle, c'est la contemplation. Alors, je ne prends pas tout de suite la contemplation de Dieu, puisque je n'ai pas encore prouvé l'existence de Dieu. J'ai regardé l'être. Donc, la contemplation de ce qui est, de ce qui existe, la contemplation du vrai. Il y a donc deux aspects. Je vois tout de suite, quand je suis du côté de la vie, il y a l'opération vitale. Contempler, théoria. Et une opération vitale de connaissance. Et de connaissance liée à l'amour. Je ne peux pas contempler sans amour. Parce que je contemple une réalité existante. Je ne contemple pas mon idée. Ça se voit de temps en temps. Il y a des gens qui contemplent leurs idées. Mais c'est une fausse contemplation de contempler ses idées. On est heureux d'avoir des idées, mais on ne les contemple pas. Vous ne caressez pas vos idées. Mais il y en a qui caressent leurs idées. Quand on cherche la vérité, on cherche toujours l'au-delà de sa contemplation. C'est l'objet de ma contemplation qui m'intéresse. C'est celui que je contemple qui m'intéresse. Dans la contemplation, la connaissance se sert de l'amour, toujours, pour contempler. Je ne contemple pas un raisonnement. Le plus beau qui soit, je ne contemple pas une démonstration a priori. Je ne contemple pas une démonstration a posteriori. Je ne contemple pas une démonstration. Une démonstration, c'est le chemin qui m'amène à celui que je contemple. C'est important. Je sais très bien la place que tiennent en moi toutes les recherches. Je dis ça parce que Merleau-Ponty définit la philosophie comme une recherche. Quand vous ne recherchez plus, il n'y a plus de philosophie. Vous devez rechercher tout le temps. Je dis, c'est très vrai. Le philosophe cherche tout le temps parce que il sait qu'il peut tout le temps approfondir, qu'il a un souci de toujours aller plus loin, grâce à une expérience qui l'éveille dans la recherche de la contemplation. Si vous n'êtes plus capable d'expérience, vous n'êtes plus capable de recherche. Et si vous n'êtes plus capable de recherche, vous faites Dieu. Instinctivement, je suis arrivé à une telle plénitude que je ne peux plus changer. Alors, au fond, à ce moment-là, ça existe. Hein. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. On a tous vu ça dans sa vie. Je ne cite pas des noms, parce que c'est dangereux, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Puis, c'est le point de vue. Il y a quelque chose qui arrête, mais quand on considère que ce qu'on contemple, ce qu'on a découvert est unique. Personne n'a découvert ça. Alors, on vit pour transmettre ça aux autres. C'est très bien. Ça peut être très charitable. Mais ça peut être aussi un orgueil fou. Parce que on se considère comme ayant découvert ça de la façon la plus exacte. Et à la place de chercher, on veut toujours communiquer ce qu'on a trouvé. Ce n'est pas la même chose. Quand on cherche la vérité, on cherche toujours quelque chose qui peut me permettre d'aller plus loin. On cherche la vérité, on n'a pas découvert encore Dieu, mais on le cherche. On cherche à expérimenter, à être en contact avec la réalité la plus parfaite. On aimerait être en contact avec les soucoupes volantes, séparées, les extraterrestres. S'ils existent, ce serait intéressant. La tentation de beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui font de la philosophie, de pouvoir parler avec un être purement spirituel, le démon, ça existe aujourd'hui. On veut parler avec lui, et extraterrestre. C'est beau cette recherche, mais attention, toute recherche n'est pas bonne. Il y a des recherches qui, dès le point de départ, sont séduisantes et ne sont pas vraies. Et à ce moment-là, à la place de m'actuer, à la place de me finaliser, j'ai pris une fausse route. On a l'exemple toujours, hein, l'exemple très simple, en voiture, quand on tombe à un tournant, quand il fait nuit, un tournant, vous n'avez pas vu l'indication, et vous continuez, et plus vous continuez, alors que vous avez oublié de prendre cette route-là, vous vous écartez. Et quelquefois, on perd beaucoup de temps comme ça. Et intellectuellement, on fait ça encore beaucoup plus. On recherche dans une fausse route. La recherche philosophique, la recherche intellectuelle est très bonne. On doit rechercher tout le temps. On doit tout le temps être en état de recherche pour aller plus loin, pour découvrir davantage la vérité. Oui. Et vous dites ça pour découvrir plus profondément la vérité. Vous considérez donc que la vérité, ce n'est pas ce que vous avez connu, mais c'est ce qui vous actue, la vérité. le vrai. On fait tout de suite cette distinction quand il s'agit de voir l'acte dans la vie intellectuelle. On fait cette distinction entre la vérité que je possède et le vrai que je cherche. Le vrai que je cherche, c'est la réalité existante qui, en tant que réalité existante, est actuée et, en tant qu'actuée, est capable de perfectionner mon intelligence. C'est ça le vrai. L'erreur, c'est quand j'ai confondu le vrai avec un vrai imaginatif. J'ai cru que c'était cette voie-là qui me conduirait vers la vérité. Puis je m'aperçois tout d'un coup que c'est faux, je me suis trompé. Et je cherche le moment où je me suis trompé, je vois que je n'ai pas vu cette déviation. Vous voyez, quelqu'un qui fait de la philosophie peut arriver très facilement à se tromper sur ce qu'il doit chercher. Est-ce que c'est « je suis » ou « ce qui est » ? Il y a une déviation. Si je prends le « je suis » comme ce auquel je dois tout le temps venir et me référer tout le temps à « je suis », je serai dans l'erreur, parce que ce sera le jeu qui deviendra la mesure de mes recherches. Ce sera moi, ce que je connais, ce qui est mon bien, ce qui est ma possession, qui sera la mesure de mes recherches. Si au contraire, c'est ceci, c'est la réalité qui me mène, c'est la réalité qui me conduit. La réalité, si faible qu'elle puisse être, si petite qu'elle puisse être, a toujours quelque chose à m'apprendre. Il faut avoir en soi cette conviction que l'être qui existe est acte et qu'il est capable, comme être qui existe, d'être capable de perfectionner mon intelligence. Et en tant qu'il est capable de perfectionner mon intelligence, il est vrai. Qu'est-ce que c'est que le vrai ? C'est ce qui est capable de perfectionner votre intelligence, de la conduire au véritable but, de vous la conduire, pour nous dirons, Dieu. Est vrai tout ce qui dans la réalité me conduit à Dieu. Ce qui dans la réalité ne me conduit pas à l'être suprême, le vrai, est mensonge. Peut me séduire, peut m'erroner. Je peux le dire ça tout de suite, hein. Même n'ayant pas découvert l'existence de Dieu, si je comprends ce que c'est que l'acte, je dois dire ça. Quel est l'acte qui perfectionne mon intelligence, qui actue mon intelligence ? Vous voyez ? Ceci est. C'est un être existant. Une idée, si géniale qu'elle soit, ne perfectionne pas entièrement mon intelligence. Ça m'intéresse. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant, je n'avais pas pensé. C'est très intéressant. Mais est-ce que c'est vrai ? Le, Vergrègue ou Lagrange, si saint qu'il était, quand on lui avait montré les plans d'un nouveau couvent, il regardait ça. Les plans, c'est une idée. Hein. Quand on voit un plan, c'est une idée. Puis, l'année suivante, on lui dit, c'est réalisé. Si vous voulez, on va vous y conduire. Alors, il a répondu, non, c'est pas la peine, j'ai vu le plan. Est-ce que ça vous semble vrai? Non. J'ai vu le plan, mais ça m'intéresse de voir la réalité qui existe. C'est une réalité artistique, mais c'est une réalité. Et en tant que réalité, elle me perfectionne autrement que le plan. Tout le monde ne pourra faire cette expérience. Hein. Si vous ne la faites pas, ça prouve qu'il y a déjà un petit déraillement chez vous. C'est que vous faites passer avant l'idée. L'idée passe avant la réalité. Est-ce que c'est vrai que l'idée doit passer avant la réalité? Mais non, une idée est vraie si elle correspond à la réalité. Si cette idée ne correspond qu'à une idée, c'est très bien, c'est une idée. C'est une bonne idée, c'est intéressant, mais ce n'est pas vrai. Pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle existe. Et c'est cette existence de la chose qui m'intéresse. Alors vous voyez, le jugement d'existence, ceci est, hein, fonde le point de vue du vrai qui actue mon intelligence. Le vrai actue mon intelligence. Mon intelligence actuée, c'est entelekeiai, entelekeiai. C'est la possession de quelque chose qui termine ma vie intellectuelle. Toute réalité qui existe peut me permettre de porter un jugement sur quelque chose qui est. Et donc, peut perfectionner mon intelligence et me donner cette qualité particulière de la vérité. La vérité, elle est dans mon intelligence. Le vrai est dans la réalité. Vous voyez, dès que je suis au niveau de la vie, je distingue l'acte immanent et l'acte qui me mesure. L'acte immanent, c'est la vérité. Vous possédez la vérité. Vous croyez la posséder. Et quelquefois, vous la possédez vraiment. Vous possédez la vérité. C'est quelque chose qui qualifie mon intelligence. Mon intelligence est qualifiée par la vérité. La contemplation qualifie mon intelligence. Je contemple une réalité qui, en tant que réalité existante, une personne que j'aime, je peux la contempler. Et la contemplation, puisqu'elle exprime l'acte ultime de ma connaissance, ne peut s'arrêter que en présence de la réalité suprême. Et la réalité suprême, je l'appelle Dieu. Selon toutes les traditions religieuses, c'est la réalité suprême. Rien n'est au-delà de Dieu. Il n'y a pas d'être existant au-delà de Dieu. Donc, l'acte suprême de ma vie intellectuelle, c'est la contemplation. La contemplation de Dieu. Autant que je peux contempler Dieu. Mais cette vérité est relative à Dieu. Elle vient de Dieu et elle tourne, elle regarde Dieu. Dieu est l'acte, il est vrai. Et je suis dans la vérité lorsque je contemple. Voyez donc qu'il y a une distinction très importante à faire quand il s'agit de la vie. Nous retrouvons la distinction d'Aristote. C'est pas parce qu'Aristote le dit qu'il le dit, mais c'est parce que c'est vrai. L'immanence de l'acte et l'objectivité de l'acte. La source de cet acte. L'immanence de l'acte, c'est la contemplation. Je contemple. Mon intelligence est satisfaite et parfaite dans cette contemplation. Je peux étudier ensuite ce qu'est cette contemplation, qu'est-ce qu'elle exige, à la différence d'une démonstration. Autre chose est démontrée, autre chose est contemplée. Et quand je dis que mon intelligence doit tout le temps chercher, que c'est ça la philosophie, on confond démonstration et contemplation. On confond recherche philosophique, analyse et contemplation. La contemplation a quelque chose d'unique. Elle atteint le terme. Et le terme que je puis atteindre par l'intelligence, c'est une réalité. Jamais une idée termine ma vie intellectuelle. C'est toujours une réalité existante qui peut achever ma recherche intellectuelle, ma recherche philosophique. Il y a donc cette distinction très importante, mon intelligence qui contemple, elle contemple qui, quoi, Dieu, la réalité suprême. Est-ce que je pourrais dire, dans une philosophie qui commence par le « je suis », est-ce que je pourrais dire « ma contemplation suprême, c'est moi ». J'ai rien trouvé de mieux que moi. Non, personne. Tous les autres sont des petits nains. Mieux que moi. Quand je me contemple, qu'est-ce que vous contemplez en vous ? Ah, je contemple la dernière chose que j'ai découvert. Et c'est merveilleux, je contemple une idée. Quand c'est moi qui suis le terme, ce qu'il y a de plus grand, c'est une idée. Je vis de cette idée-là. Et vous contemplez, à ce moment-là, il n'y a pas de réalité en dehors de vous. C'est vous. Quand Aristote dit la contemplation de la contemplation, noesis, noeseos, la contemplation de la contemplation, cela ne peut être vrai que de l'être premier, que de Dieu. Seul Dieu peut, en se contemplant la réalité suprême. Vous voyez que l'acte dans la vie de l'intelligence, c'est jamais en moi qu'il est découvert. Il n'est découvert qu'au-delà de moi.